On va parler avec notre ami François Paquette. Salut François.
Salut Danny.
Premier podcast de l'année. François, écoute, grosse rumeur, c'est sorti par... c'est pas une rumeur, c'est vrai. C'est Adam Schefter qui est probablement le gars le plus branché, l'insider le plus branché dans la NFL, qui a tweeté hier avec Catherine Reich, la Québécoise, qui a commencé avec les Alouettes de Montréal, qui a poursuivi avec les Argonauts de Toronto, qui sera interviewé dans les prochains jours comme directeur général chez les Vikings du Minnesota. C'est une excellente nouvelle. Écoute, je ne sais pas si ça va avoir le poste, sauf que ça, il y a de bonnes chances que ce serait vraiment intéressant. Tu sais, on parle d'une femme, on parle toujours d'une femme, sauf que, tu sais, là, je pense que dans son cas, elle est prête, je pense. Oui, pas loin.
Oui. Oui, puis le parallèle est intéressant avec le Canadien là-dessus, parce qu'il y avait plusieurs candidates, des femmes qui avaient de l'expérience dans le monde du hockey. Et pas nécessairement pour un poste de DG, mais je veux dire, Catherine Reich travaille avec le directeur général des Eagles depuis un bon bout de temps. Là, comme tu dis, elle travaille longtemps dans les Canadiennes. Puis je pense pas que ce soit une fausse candidature, là, qu'on veut juste plaire aux femmes. C'est vraiment, je pense, une très, très, très bonne candidate. Ouais. Alors, si c'est pas cette fois-là, ce sera peut-être pour bientôt. Mais je pense qu'il y a des fortes chances que si c'est pas là que d'ici quelques années, elle devienne la première DG dans l'histoire de la NFL. Quoi qu'on me dise qu'il y en a déjà eu dans les années 80, ouais, là, mais je pense que c'était vraiment temporaire.
Ouais.
Ouais, j'ai vu un petit article là-dessus, le parallèle avec Catherine Reich, mais tu sais, elle, il n'y a rien de faux dans son histoire. Elle a vraiment gradué, elle a monté les échelons. T'sais, même pas juste dans les postes, dans les ligues aussi, quand tu pars plus bas, tu vois la Ligue canadienne qui est ensuite dans la NFL.
Ouais.
Alors, chapeau, déjà qu'elle soit interviewée, c'est tout un coup de maître de sa part.
Ouais, les gars, c'est vraiment intéressant. Comment tu vois les séries en fin de semaine, les matchs éliminatoires? Donc, ça va être très, très intéressant. Moi, je pense que le meilleur match, c'est San Francisco contre Dallas. Parce que les 49ers sont vraiment, écoute, au cours des 7 derniers matchs, au cours des 9 derniers matchs, ils ont gagné 7 fois.
Oui, puis ils ont une très bonne équipe. Moi, je pense que tu as deux matchs qui sont déjà réglés. Là. Kansas City va battre Pittsburgh, puis que Tampa Bay va battre Philadelphie. Ça semble pas mal être dans la poche. Tu as deux matchs où ce sont des rivaux de division, les Pats contre les Bills, puis même chose pour les Cards puis les Rams. Ça, honnêtement, c'est des matchs 50-50. C'est des équipes qui, cette année, chaque équipe s'est battue une fois. On est capable de gagner à la maison comme sur la route. Et ça, c'est vraiment 50-50. Puis les deux autres matchs, je pense que les Cowboys partent un petit peu favoris. Ils sont à la maison. Ils ont une très bonne saison. Et je suis entièrement d'accord avec toi que les Niners sont capables d'aller gagner là-bas. La grande question, Danny, c'est toujours, c'est Jimmy Garoppolo. Je veux dire, c'est la première demi qui a joué contre les Rams en fin de semaine, c'est le gars qu'on veut échanger, qu'on veut voir partir. Et puis là, deuxième demi, prolongation, joue un bon match, amène son équipe à gagner. Alors, c'est toujours la grande question de lequel des deux on va voir. Et le match Vegas-Cincinnati, peut-être c'est le premier de la fin de semaine, là, c'est samedi, 4h30. Puis c'est peut-être le match le plus intriguant parce que moi, je pense que les Bengals ont une meilleure équipe. Ils ont fait en sorte aussi que quelques joueurs, dont Joe Burrow, qui a eu du repos la semaine dernière, donc une semaine de bail ou presque. Mais Vegas a vraiment le vent dans les voiles. Puis ça, dans le monde du sport, le momentum, tu peux jamais le dénigrer. Puis je trouve vraiment que les Raiders ont joué du football très, très, très inspiré depuis le, tu sais, tout ce qui s'est passé durant l'année, le congédiement de John Gruden, la controverse avec Henry Rollins qui a été arrêté dans une histoire de faculté affaiblie, puis toutes sortes d'histoires. On a un entraîneur qui est là par intérim. Puis je pense qu'on a sincèrement des chances de gagner à Cincinnati. Ça devrait être un très bon match entre ces deux équipes-là, qu'on voyait pas nécessairement en série en début de saison.
Ah, regarde, c'est vraiment intéressant. Du côté des Bengals, c'est vraiment une question, je pense, d'apprendre à gagner. C'est une équipe jeune, hein?
Oui, très jeune. Puis je veux dire, mais je sais pas si tu vas être d'accord, mais Joe Burrow, je trouve qu'il a vraiment le talent et la prestance pour devenir la prochaine, excuse-moi l'expression en anglais, mais c'est face of the franchise. Tu sais, le truc qui va être non seulement le visage de la franchise, mais qui va être le visage de la NFL. Je pense que c'est un gars qui est très, très bon, qui travaille très fort. Tu n'auras jamais vraiment de controverse autour de ce gars-là. Mais j'ai hâte de voir parce que, comme tu mentionnes, c'est de gagner les gros matchs, de faire en sorte de sauter par-dessus la butte, de dire « Ah, les Bengals, c'est toujours la même histoire à chaque année ». Mais j'ai peur de voir comment ça va se dérouler. Puis, tu sais, le fait aussi que le résultat du match entre les Pats et les Bills va changer beaucoup de choses aussi pour la deuxième ronde. T'sais, si les Pats venaient qu'à surprendre les Bills, t'en irais probablement à Tennessee au lieu d'aller à Kansas City. Ça change beaucoup de choses là, dans la discussion. Donc, tu sais, moi, je regardais tout ça. Évidemment, je suis un partisan des Pats. Je souhaite qu'ils fassent un bout de chemin. Mais je crois pas sincèrement qu'ils vont aller jusqu'au bout. Mais je pense présentement que les Chiefs dans la conférence américaine et les Packers dans la conférence nationale ont les deux meilleurs clubs sur papier, mais ça ne veut pas dire nécessairement qu'ils vont se rencontrer au Super Bowl.
Regarde, j'ai bien hâte de voir. Parlons de hockey maintenant. Écoute, les Canadiens, hein, ça l'a encore fait pout, ce qui est un peu normal. Là, bien, là, écoute, après une séquence de quoi, 10 matchs, c'est quoi, 12 jours consécutifs sans jouer. Oui. Donc, je pense que quelque part, c'est rien que normal. Là.
Puis, c'est rien que normal. Au moins, ça ressemble un petit peu plus à un club de la Ligue nationale hier. C'est la formation, mais un club de la Ligue nationale très faible. Et faut mentionner qu'avec la victoire des Coyotes contre Toronto, la victoire surprise, le Canadien se retrouve dernier au classement général. Je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas ça voir le Canadien dernier, mais c'est aussi bien de finir 32e que de finir 29e. C'est tant qu'à avoir des chances pour la loterie, aussi bien d'avoir le plus possible. Mais avec la façon dont la loterie procède maintenant, ça veut pas dire que si tu termines dernier, tu vas avoir le premier choix. C'est beaucoup plus rare. Ouais, c'est ça. Les Red Wings, eux, étaient tombés quatrième. Et tu regardes des clubs comme Toronto avait réussi à avoir le premier choix en étant Anaheim Matthews. Puis, tu sais, des fois, des clubs comme les Oilers ont été excessivement chanceux. Mais, encore là, ma seule déception aussi, c'est qu'on n'a pas eu de championnat mondial parce que j'aurais aimé voir Shane Wright sur une plus longue période. On peut pas dire que dans les deux premiers matchs, il avait vraiment ressorti du lot. Mais il faut juste, je pense que les gens aimeraient beaucoup voir le Canadien aboutir avec le premier choix. Mais il faut pas penser que Shane Wright est un sauveur, loin de là, parce qu'il y a même certains dépisteurs qui pensent que c'est peut-être pas nécessairement le véritable numéro un. Mais c'est pas une grosse année de repêchage, ça, c'est sûr et certain.
OK. J'ai bien hâte de voir ça. Parlons, mais ça traînait, hein, le poste de DG hein, à Montréal. Hein, je me dis, une affaire, c'est rendu très plate. Là, je me dis, une affaire, ça. C'est-tu DG Academy? C'est un peu ridicule.
Oh, mais on dirait qu'entre le 10 décembre et le 1er janvier, c'est pas passé grand-chose. C'est comme si on a fait notre liste de candidats, on en reparlait à Noël puis au jour de l'an, puis après ça, on a commencé nos rencontres. Fait que c'est pour ça que il disait qu'il y avait une dizaine de candidats, il en reste probablement 3 ou 4. On entend toutes sortes de noms et de rumeurs, mais il n'y a rien qui est clair. Mais ça revient. Dernier, ce qu'on avait dit il y a quelques semaines, c'est que c'est Jeff Gorton qui va gérer le dossier des transactions, puis gérer le dossier de Carey Price. Puis c'est lui qui est en tête, puis c'est lui qui mène tout ça. Parce que, écoute, disons qu'il faisait une nomination la semaine prochaine. Tu sais, tant que la personne se mette en place, connaissent, puis je comprends que c'est un Marc Denis ou quelqu'un comme ça, il connaît déjà les bases puis les joueurs et tout ça, mais je pense que le DG qui va arriver dans cette position-là va vraiment être en position apprentissage et pour la date limite des transactions et pour le repêchage, puis Jeff Gorton va tirer les ficelles, mais j'ai hâte de voir aussi, tu sais, on parle beaucoup de Ben Sherratt, mais à quel point le Canadien
Jeff
va peut-être
Petrie.
Être vendeur.
Je pense que ses jours sont comptés à Montréal aussi, on peut le dire, là.
Oui, mais le problème, c'est qui veut de Jeff Petrie? Écoute, il reste 3 autres années à 6 millions de Jeff Petrie, puis il a l'air d'un gars complètement fini. T'sais, à un certain point, je pense que si t'étais capable de le donner là, pour un vulgaire choix au repêchage de 3e ronde, faudrait que tu y penses simplement pour ton plafond salarial. Mais Jeff Petrie ressemble au gars qui était à Edmonton avant que le Canadien fasse son acquisition. Les gens Edmonton, les médias Edmonton disent que ce gars-là est à peine de calibre pour la Ligue nationale. Il est arrivé à Montréal, il a joué de très, très bonnes saisons. Il a eu 2 beaux contrats. Mais là, on dirait que je sais pas si c'est l'âge, je sais pas si c'est le fait que le club perd, je sais pas si c'est une question familiale. Il y a quelque chose qui l'agace. Oui, ben voilà, très bon. Tu sais, toutes ces réponses parce que tu dis c'est vraiment pas le même gars. Mais c'est certain que si tu as preneur pour le contrat et pour avoir un petit quelque chose en retour, il faut que tu appuies sur la gâchette. Mais j'ai hâte de voir pour Price, Gallagher, Toffoli, puis des gars qui ont une certaine valeur, est-ce qu'on va tout de suite appuyer sur la gâchette ou si on va être très, très, très patient puis peut-être voir cet été ce qui va se passer. C'est ce que j'ai hâte de voir, mais c'est sûr que il y en a quelques-uns qui vont partir sur Yoker.
OK. Maintenant, on va parler de baseball en terminant, François. Moi, je suis un fan. Pour Barry Bonds et tous ceux Roger Clemens qui ne sont pas à Cooperstown, je suis d'accord avec qui patiente un peu. Mais par contre, les ignorer, c'est complètement absurde. Là. David Ortiz, c'est pratiquement C'est pratiquement certain qu'il va rentrer. Sauf que dans le cas de Barnes et Clemens, en tout cas, les indices semblent indiquer qu'il y a des bonnes chances également. Ce serait le temps, je pense que c'est leur dernière année d'éligibilité, je pense, hein? C'est ça, hein?
Oui, puis on est passé de 15 à 10 ans dans les dernières années aussi pour le nombre d'années d'éligibilité. Moi, écoute, ça me fascine parce que c'est devenu un concours de popularité. David Ortiz a testé positif au début des années 2000. Il a eu une très, très belle carrière, mais parce que c'est Big Papi, c'est un gars chaleureux, ça a été une grande vedette à Boston, on dirait qu'on a oublié que lui avait testé positif. Barry Bonds était probablement un des gars les plus désagréables avec les médias, avec les partisans, c'est tel que tel. Je pense qu'il était quand même pas si mal, mais c'est le fait qu'il n'a jamais testé positif, même si on a tous des doutes. Puis, tu sais, c'est Jacques Doucet qui disait, puis je trouvais que c'était vrai, c'est qu'à un moment donné, il faudrait que le temps de la renommée mette les règles au clair. Tu sais, il y a des gens qui votent en se disant, ben moi, je vote pas pour les gens qui ont testé positif. Il y en a que c'est une question de moi, je pense que. Puis là, tu as beaucoup de gens qui, depuis des années, envoient des bulletins blancs, des bulletins où ils votent pour personne. C'est comme un peu pour chialer contre cette génération-là en disant qu'il y en avait plusieurs qui se dopaient, qui trichaient. Mais moi, je trouve ça absurde. Là, tu as la chance de voter. Il y a des joueurs qui le méritent, là. Si tu veux pas voter pour eux, c'est une chose, mais donne la chance à ceux qui ont une chance de l'emporter parce que c'est dur d'avoir 75%. Puis même, tu as vu dans les dernières années des gars qui ont eu des carrières parfaites, qui n'ont jamais eu de rien en dehors du terrain. Puis les gars sont jamais capables d'avoir 100% parce que il y a quelques égos puis quelques grosses têtes qui se pensent, je pense, plus importants que le baseball. C'est ça qui est dommage dans cette histoire-là. Mais je pense qu'on est rendu là avec, tu parles de Bonds, Clemens. On verra pour McGuire, Sosa, les autres. Mais je pense que Bonds, à tout de moins, devrait entrer au temple de la renommée.
OK. Donc, François, on s'en reparle bientôt.
Parfait,
Notre
merci.
ami François Paquette qui nous parlait de l'actualité.